Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, avec de nouveau un numéro au programme très varié puisque nous allons y parler d'un opéra, d'un festival de piano et d'autres petites choses dans des genres très différents. Vous allez le découvrir au fil de cette émission qui s'annonce très animée, puisque je suis entouré aujourd'hui de trois chroniqueurs, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps. Je suis donc très heureux d'accueillir Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et je salue le retour à Mélomanie de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, vice-président des Clés de Saint-Pierre et chef de l'Orchestre en Harmonie. À ce trio, il faudra ajouter tout à l'heure Michel Ventula, président de Piano Pic, avec qui nous allons évoquer au téléphone la programmation de la 23e édition du festival, celle-ci ayant lieu cette année du 15 au 26 juillet. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans les médias, place à l'actualité musicale de ces derniers jours et à notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Et l'événement qui occupe l'actualité musicale ces jours-ci, c'est Werther, l'opéra de Jules Massenet, dont les représentations ont commencé au Théâtre du Capitole le 20 juin. Elles se poursuivent jusqu'au 2 juillet, avec encore deux possibilités d'assister à cette production. L'une ce dimanche 30 juin à 15h et l'autre mardi 2 juillet à 20h pour la dernière. Autour de la table du studio de Radio Présence, plusieurs d'entre nous l'ont découverte le jour de la première. Et je crois savoir que cette représentation initiale a été diversement appréciée, notamment par notre monsieur opéra, Robert Pénavert, qui semble avoir un avis plutôt nuancé, voire critique. Qu'en est-il précisément, Robert ?
Alors en fait, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Effectivement, moi je suis très très nuancé. Alors d'abord, la reprise de cette production qui date de 1997, qui avait été créée pour le Théâtre du Capitole, et en l'occurrence pour la prise de rôle de Roberto Alagna, dans une mise en scène Nicolas Joël. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui ? Quelque chose qui a l'air d'avoir terriblement vieilli. Alors en fait, en particulier au niveau de la mise en scène qui a été réalisée par Frédéric Lambert. Comme cela se fait très très souvent, les metteurs en scène ne reviennent pas sur les lieux des premières et les théâtres font appel à d'autres personnes pour régler les mises en scène. Et là, nous avons vraiment quelque chose qui date d'il y a 50 ans, quoi. Enfin, avec les entrées, les sorties, les chanteurs qui se mettent un peu en avant au moment de pousser la note. Enfin, c'est le théâtre lyrique tel qu'on ne veut plus le voir aujourd'hui. Parce que, en dehors de tout ça, évidemment, il y a un grand absent, de moins une grande absente, c'est l'émotion. Il n'y en a pas. Alors, quand on n'a pas d'émotion en écoutant Werther, qui est... Personnellement, j'écouterai en boucle en permanence. Pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre. Et quand il n'y a pas d'émotion, quand on s'ennuie, quand on regarde le plafond, pendant le spectacle, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Moi, j'avoue qu'au niveau production, je pense que la chose a été faite de manière relativement hâtive, dont on ne retrouve pas le vrai travail qu'avait fait Nicolas Joël, en définitive. C'était une autre époque, peut-être. Bon. Alors ensuite, si vous voulez que je continue, je peux continuer. Mais bon, alors Serge, je suis désolé, mais...
Oui, on va parler de l'orchestre, oui. en tout cas de la direction de l'orchestre.
La direction, voilà, exact, Eric, exact. Je tenais absolument à ne pas mélanger dans mes propos l'orchestre et les musiciens qui le composent et la direction de Jean-François Verdier, qui est l'ancien clarinettiste du Capitole, qui a fait une carrière, je crois, à l'Opéra de Paris comme clarinettiste et puis chef d'orchestre, compositeur, etc., etc. Et moi, alors certes, je suis un peu vacciné à la direction de Michel Plasson, ok, tout ce que vous voulez, mais je l'ai écouté par d'autres chefs d'orchestre, bien sûr. Mais là, qu'est-ce que j'entends ? J'entends quelque chose, encore une fois, qui essaie de tirer vers des sommets de décibels. Le résultat, c'est quoi ? Des cordes qui grincent un peu, la petite harmonie... c'est pas tout à fait ça. Les vents, bon, ça exagère trop. Résultat, un tsunami de notes qui sort de cet orchestre et qui envahit la salle et le plateau. C'est ça qu'il y a de plus grave.
Qui écrase, vous voulez dire.
Voilà, c'est-à-dire que les chanteurs sont trouvés devant un véritable rideau sonore, donc avec l'obligation, et nous y reviendrons bien
de
sûr
passer
après,
par-dessus.
Et de le transpercer,
ouais.
Avec les difficultés que ça a entraîné pour certaines personnes. Voilà. Le verre à moitié vide, il y a d'autres choses, mais on va l'évoquer. Je voudrais passer la parole maintenant à mes honorables collègues.
Alors, puisqu'on parle de l'orchestre et de la direction d'orchestre, l'avis de Serge Krichevski, alors c'est un peu difficile pour lui parce qu'il est partie prenante, mais est-ce que vous l'avez vécu de l'intérieur, comme a pu le vivre Robert lors de la première? Je rappelle que c'était la première, les choses ont sans doute évolué depuis. Quel est votre avis, Serge Krichevski?
Alors, je vais certainement décevoir et frustrer beaucoup de personnes, d'auditeurs, mais il se trouve que notre perception est forcément biaisée. Le fait qu'on joue, le fait qu'on soit partie prenante, qu'on essaye de gérer notre connexion avec nos collègues proches, éloignés, et bien entendu, ce qu'on entend du plateau, parce que ce qu'on entend du plateau, c'est bon. Et là, pourtant, on entend quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que les chanteurs sont obligés de... Mais en tout cas, ce que j'assure absolument, c'est que, au moins, Jean-François Verdier a fait un travail de réglage des nuances. C'est une chose qu'on a fait dès le début, il a parlé des nuances, des problèmes d'équilibre qui sont inhérents à tout opéra, au Capitole en particulier, parce que la fosse sonne facilement, naturellement, beaucoup. Après, il est possible qu'au fur et à mesure des répétitions, que la surenchère s'installe et qu'il y ait eu un déséquilibre au détriment des chanteurs qui soit apparu. Par contre, il y a des personnes qui sont en principe entre le chef d'orchestre et même qui sont censées avoir les oreilles extérieures. Ce sont les chefs de chant qui sont très régulièrement sollicités, des gens de grand talent qui sont là, qui font travailler les chanteurs et qui disent là, attention, là, il y a un gros problème ou il y a un petit problème ou c'est équilibré. Parce que je pense que tout chef, même le moins humble des chefs, reconnaîtra que dans sa position dans la fosse, il ne peut pas exactement savoir ce qui se passe dans la salle et la projection. Et voilà, nous, au niveau instrumental, on imagine, on connaît la fosse, on sait qu'il faut jouer très, très piano, mais parfois, il y a aussi des groupes d'instruments qu'on n'entend pas bien, et puis il y a les gestes du chef. Mais globalement, il ne nous a pas beaucoup poussé à jouer fort. Ça, honnêtement, c'est peut-être une chose qui s'est installée contre notre gré, parce qu'un des problèmes, évidemment, on monte un opéra comme ça relativement vite. Après, il faut que les 6 représentations tiennent avec un niveau égal, si ce n'est même meilleur si possible, sans qu'il y ait de répétition entre les représentations. C'est quand même très délicat. Parfois, certains d'entre nous, puisqu'il y a des concerts à la Lohengrin, font d'autres choses entre-temps. On change complètement d'univers. Là, je ne vous dis pas ceux qui vont faire Moondog, ceux qui ont fait Classisco ces jours-ci, hier, je crois. Voilà, ça change et donc on est habitué à ça. Mais malgré tout, il y a les conditions aussi de température qui ne sont pas totalement à éviter.
Anne-Marie, peut-être votre avis, évidemment, sur ce que vous avez entendu venant de l'orchestre, mais aussi sur scène, hein, les chanteurs, la mise en scène.
Je suis assez d'accord avec Robert. Ce Werther, c'est vrai, il y manque de l'émotion. C'est dû à un ensemble de choses qu'il a souligné, qui n'est pas dû peut-être à une personne. Peut-être aussi c'est le fait de travailler plus rapidement ou le manque de répétition, certainement.
Oui.
Mais je pense aussi que s'il y avait des chanteurs ayant une personnalité peut-être plus forte... Même aussi la mise en scène n'a pas été assez axée sur le côté dramatique, peut-être aussi les chanteurs méritent d'être guidés. Je pense aussi que des personnalités très fortes de chanteurs, on en a eu ici à Toulouse lors d'enregistrements. Je pense notamment à Alfredo Kraus qui avait enregistré Werther avec Michel Plasson et l'Orchestre du Capitole. Il suffisait d'écouter une séance d'enregistrement pour être vraiment ému. Et je pense aussi avec le même orchestre et Michel Plasson, les représentations en concert de Werther à la Lohengrin et à Paris avec une version, disons, peu connue, une version pour baryton, était d'une émotion intense, avec des chanteurs qui, au-delà de tout, jouaient vraiment, incarnaient leur personnage, le disaient avec une diction exemplaire. Je pense notamment à Suzanne Graham, qui était une Charlotte poignante. Thomas Samson, une version baryton qui surprend, c'est vrai, parce que c'est pas du tout la même façon de chanter qu'un ténor, mais en même temps, chaque mot est vécu, chaque mot est dit, alors que là, ça manquait. Même si le Werther de Boras, je pense qu'il s'en sort pas mal, mais vu l'ensemble, on n'est pas non plus dans le grand Werther aussi, même si je crois qu'il s'en sort plutôt bien. Mais sa Charlotte, Karine Deshaies, vraiment, à aucun moment ne nous provoque à moi du moins un minimum de sentiments quelconques. Alors est-ce que c'est l'ensemble? C'est un opéra qui est difficile à monter, puisqu'avant cette production d'Alania, c'était souvent monté Werther au Capitole. Mais moi je sais que des gens ont des souvenirs très divers. parce qu'il faut, pour le rôle titre notamment, des monstres sacrés. Les grands Werther ont quand même été des gens qui ont marqué le rôle parce qu'ils étaient, ils avaient un ensemble de qualités vocales et dramatiques. Sinon, je crois que le public a réagi. La première, c'était pas enthousiaste. La suite, je crois que c'était mieux. Le public est ravi de retrouver cet opéra, qui est un très bel opéra, sous la baguette de Jean-François Verdier, l'orchestre du Capitole, avec toutes les difficultés aussi, c'est vrai, en fin de saison, où je crois que ça en sort pas mal, notamment les solistes, avec le très beau violoncelle de Vincent Pouchet, j'allais chercher son nom, dans le fameux Clair de Lune, que des gens attendent avec impatience. Voilà le bilan de ce Werther, dont je n'ai vu que la première.
Alors, je me suis laissé dire, effectivement, que les représentations suivantes étaient mieux, voire beaucoup mieux, selon certains. Serge Krzyzewski voulait ajouter quelque chose.
Oui, juste à souligner, alors deux choses, j'avais envie de dire les souvenirs qui nous forment et nous déforment, parce que bon, on a des souvenirs, on a des très grandes voix dans l'oreille, une autre époque effectivement, hein, mais maintenant c'était un goût qui effectivement est un tout petit peu moins à la mode, mais c'est une œuvre très difficile, je pense, au niveau esthétique, parce qu'en fait elle vient vraiment de l'époque du Sturm und Drang. Enfin, l'œuvre originale de Goethe, c'est 1774, c'est Le manifeste du Sturm und Drang, début du romantisme, hein, de ce mouvement précurseur du romantisme. Alors, elle est très célèbre, évidemment, au XIXe siècle, reprise par les librettistes et par Jules Massenet, qu'il aimait beaucoup, mais il en fait une œuvre quand même d'un romantisme plus appuyé, surtout évidemment toute la deuxième moitié avec troisième et quatrième acte. C'est une œuvre dont le dosage est très délicat. Alors c'est vrai qu'il faut des gens qui habitent la scène. Nous, de la fosse, on a quand même la sensation que les chanteurs vivent leur rôle. On a cette sensation nettement. Je suis entièrement d'accord qu'on ne voit pas le spectacle et que ça peut tout changer de voir ça. Bon, en tout cas, on a l'impression que c'est vécu. Bon, après, c'est une œuvre qui reste peut-être aussi parce qu'elle a été tellement jouée, tellement célèbre et tellement attendue qu'elle en devient un petit peu un pic, s'il faut se dire, très élevé à atteindre.
Oui, alors là, on en vient à quelque chose dont on parle souvent dans cette émission s'agissant des opéras qu'on peut voir au Théâtre du Capitole, la direction d'acteurs. Alors, je voulais attendre Robert Pénavert là-dessus. Il semble que là, il y ait quand même un manque, clairement.
Pour moi, il n'y en avait pas. Enfin, on a réglé les entrées et les sorties, point. Alors, voilà, c'est tout. Et ensuite, combien de fois les chanteurs étaient propulsés ou ils se propulsaient
sur le devant de la scène,
scène pour pousser la note. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on ne le voit plus, ça c'est fini, c'est plus possible.
Peut-être, Robert, si je peux me permettre de vous poser la question, par rapport aux productions de cette année, est-ce qu'il y en a quand même qui se détacheraient au niveau justement de
la direction d'acteur,
voilà, mise en scène pure, indépendamment de la partie décor, etc., qui vous ont quand même plus marqué? Bon,
celle de Michel Faux.
Certainement, Barbe Bleue.
Ah oui. Ouais. Michel Faux.
Barbe Bleue.
Ouais.
Oui.
Barbe Bleue, c'est pas Michel Faux.
Non, mais celle d'avant.
Voilà, c'est Ariane et Barbe Bleue, Ariane et Naxos, voilà. les deux
Ariane.
Surtout la seconde Ariane.
Ariane et Barbe
Bleue,
pardon.
Oui.
Ariane et Naxos.
La ville morte, peut-être.
Oui. Enfin, c'est très rare. On en voit, bien sûr, des choses comme ça. Mais quand on sait le travail qu'avait fait Nicolas Joël là-dessus.
Oui.
Et voilà, on donne ça à une dame, je ne sais pas si elle a lu les notes, si Nicolas Joël a supervisé ça,
travail qu'elle a fait. Ça, c'est un vrai problème, la transmission mouvements scéniques, je ne sais pas comment c'est géré.
Nous étions plusieurs à la sortie à nous dire, pour faire ce travail, on peut le faire nous aussi, ce travail. Bon, voilà, je voudrais en venir au chanteur.
Oui.
Parce que effectivement, nous avons tous Anne-Marie. Effectivement, tu parles de Suzanne Graham, tu parles de Thomas Hampson. Bien sûr, mais on va pas se lobotomiser quand même. Bon, mais en plus, il faut regarder un peu comment cet opéra a été créé, avec qui. En plus, nous avons la chance d'avoir deux créations de cet opéra, l'une en Autriche, l'autre en France. Bon, et qui avons-nous en face? À l'époque où quand même Massenet était à la baguette. Enfin, je veux dire qu'il a supervisé, il a choisi, etc. La première Charlotte, quand même, elle chantait Le Trouvère, Azucena. Déjà, ça vous donne une idée. La deuxième, en France, Marie Delna, était un véritable contralto, qui chantait Fides, qui a été choisi par Verdi pour la première de Falstaff en France. Je veux dire, ça pèse lourd, ça, ce genre de référence.
Ces références-là, bon, oui.
Voilà. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un vrai contralto pour chanter ça? J'en sais rien. Mais un mezzo contralto, certainement. Je suis désolé, mais Karine Dehé, moi, depuis longtemps, je m'interpelle Et je ne suis pas le seul, je crois, à ne marier au pigne du chef à côté de moi.
Entièrement d'accord.
Et je te remercie, parce que je pense qu'il faut avoir un certain courage aujourd'hui pour oser dire ça. Karindé bénéficie d'une aura, d'une notoriété. Je n'arrête pas de voir des comptes rendus, mais complètement dithyrambiques sur cette voix. Je ne comprends pas, la voix est courte, la voix n'est pas volumineuse.
C'est plutôt, selon vous, une petite voix qui ne peut pas jouer certains rôles.
Que ce soit une petite voix, ça, il n'y a pas de problème.
Mais il faudrait
au moins qu'elle soit homogène, ce n'est pas le cas.
Donc, résultat, qu'elle ne soit pas distribuée dans des rôles
qui ne lui conviennent pas, qui ne sont pas faits pour.
Voilà, il y a aussi le fait qu'elle a commencé à tout
ce dont on s'aperçoit, c'est que, en fait, je pense qu'elle a conscience de ça. Ce qui veut dire que lorsqu'elle est dans les 4 ou 5 notes où elle est vraiment très, très à l'aise, clac,
elle est surinvestie
de suite sur le devant de la scène, et que ce soit orchestré ou pas, elle pousse des notes démesurées. Mais c'est quoi? Enfin, ça veut dire quoi, ça? On n'y est pas. Et dès qu'on descend un peu dans le grave, et Dieu sait que l'ambitus requis pour Charlotte est très court. Donc on n'a pas besoin, c'est pas Ulrika non plus, c'est pas Herda. Mais dès qu'on descend un peu dans le grave, qu'on commence à flirter avec le bas de la portée, elle poitrine, elle ne sait pas très bien le faire non plus, c'est pas joli. Et puis le nombre de notes vraiment criées, que l'on a entendu, ben tout cela trace un portrait vocal sur lequel je ne suis pas du tout convaincu. Voilà.
Et qui n'émeut jamais.
Et qui n'émeut.
Oui, puisque on citait tout à l'heure Suzanne Graham dans cette version de concert qui a donc été donnée à Toulouse, à La Lograin et à Paris au Châtelet avec un très grand succès. Suzanne Graham seule avec son costume de théâtre, simplement une robe du soir. Mais ces larmes qu'on ne pleure pas, ça bouleversait. Mais... on peut voir encore le DVD, il faut le regarder. Cet air seulement, on ne peut pas l'écouter sans être profondément ému. Et avec un français, elle est américaine, elle ne parle pas très bien français. D'ailleurs, là, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on nous parle toujours du chant français, les chanteurs français ne chantent pas assez, on veut leur prendre la place, ils sont victimes, etc. Et comme par hasard, dans des opéras comme Werther, les grands interprètes, ils ont, de notre siècle du moins, n'ont pas été tellement français. Puisque donc, de nos jours, en dehors de Roberto Alagna, qui ne l'a pas tellement chanté d'ailleurs, donc les grands interprètes de cette époque ne sont pas français. Et ils s'expriment dans un français qui vraiment est exemplaire. C'est quand même surprenant.
Oui, on peut s'en étonner.
Graham, t'as raison de revenir sur elle, parce que c'est typiquement ce que j'appelle une artiste, Suzanne Graham. Et il y a très peu d'artistes. Elle en est une, Thomas Sampson également. Ce sont deux très grands artistes. Voilà. Si je voudrais en revenir à Jean-François Borras. Jean-François Borras, il a chanté en Espagne, il a chanté en Italie, il a chanté, je crois, au Metropolitan également, ailleurs peut-être, certainement. Alors lui chante avec plusieurs techniques, mais peu importe. Finalement, je suis assez convaincu. Alors, il faut s'habituer à ces changements d'appui dans la voix. Une fois qu'on s'est habitué, ça lui permet de faire de très belles nuances. C'est phrasé, c'est... Voilà, alors sur scène, malheureusement, c'est... Physiquement, c'est rien du tout, quoi. Voilà.
Et ça, c'est... Mais alors, ça, on en revient à la direction
ça,
d'acteur.
Parce la direction d'acteur.
Personne n'est là pour le forcer, voilà. Entre guillemets.
Mais encore une fois, il faudrait revenir. Qui a créé? Quels ont été les deux créateurs? Mais je suis désolé, mais le maître étalon, c'est ça. Alors ensuite, que la révolution baroque ait donné la place à tout un tas de chanteurs à format réduit, très, très, très musiciens, etc. Puis ces chanteurs, petit à petit, c'est pas le cas Jean-François Borras, hein, je m'apprête de le dire, mais ces chanteurs veuillent évidemment au bout d'un moment intégrer le répertoire du 19e siècle, je le comprends, mais c'est pas toujours possible. Et donc voilà, en allemand, ça a été créé quand même par l'un des plus grands Lohengrin de son temps, Ernest van Dyck. J'ai le plaisir d'avoir son livre où il parle de sa carrière. Alors évidemment, il s'est peut-être écrit une véritable hagiographie, une auto-hagiographie, mais non, en fait, je ne crois pas. Et c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui faisait très attention au rôle, qui chantait. Voilà, ça a été un immense Lohengrin, un immense Parsifal, etc. Et il a chanté également Werther. Alors comment, je ne le sais pas, mais les critiques de l'époque sont... unanime pour louer la qualité de sa prestation. En France, c'est Guillaume Ibos. Alors Guillaume Ibos, je voudrais juste faire une petite parenthèse, il est né à Muret et il est décédé à Montesquieu-Volvestre. Et ça a été un immense chanteur, un immense ténor qui a chanté sur les plus grandes scènes qui existaient à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, évidemment, puisqu'il est mort en 1952. Un chanteur extraordinaire. Comme par hasard, lui aussi chantait Lohengrin. Mais il chante également Raoul de Nangis, etc. Enfin, Vasco de Gama, et l'Africaine. Bon, voilà. Donc c'est ce format-là qu'il faut. Entendons-nous bien, parce qu'en en plus, l'œuvre est très orchestrée. Donc il faut des chanteurs capables d'affronter, mais il faut un chef qui laisse respirer cette partition.
Oui, il faut aussi voir ce que Massenet souhaitait comme type de voix. Je ne sais pas s'il a exprimé son satisfaction à Vienne, ensuite quand ça a été monté en France. Mais alors nous, on a peut-être la déformation maintenant du fait qu'on considère que c'est de la musique française et peut-être que ça oriente un peu trop les choix, le casting et...
Bien, en tout cas, on a compris que les uns et les autres, il y avait quand même quelques réserves sur cette production.
Juste un petit mot pour souligner quand même, et pourtant, leur intervention n'est pas très longue, mais la maîtrise du Capitole, dirigée par Alfonso Cayani,
oui, ça il faut le dire.
En timing, ils n'ont pas grand-chose à faire, mais ça a été un vrai bonheur de les entendre, parce que tout d'un coup, il y avait de l'émotion.
Bien, on terminera là-dessus, sur ce petit, même grand tour de table, et puis, quels que soient les avis des uns ou des autres, le mieux est encore d'aller se faire sa propre idée en allant voir Werther. Voici un extrait de ce que vous pouvez entendre actuellement au Théâtre du Capitole. On écoute beaucoup Jean-François Borras et un peu Karine Deshaies. Un extrait de la production de Werther actuellement en cours au Théâtre du Capitole avec Jean-François Borras et Karine Deshaies dans les rôles de Werther et Charlotte. Il reste deux représentations de l'opéra de Jules Massenet à voir sur la scène lyrique toulousaine. Elles ont lieu dimanche à 15h et mardi prochain à 20h pour la dernière. C'est terminé pour cette première partie d'émission. Après la traditionnelle petite pause d'une minute, seconde mi-temps en compagnie d'Anne-Marie Chouchan, Serge Krichewski, Robert Pénavert et Michel Ventula qui sera au téléphone avec nous pour évoquer la programmation du prochain festival Piano Pic. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, vice-président des Clés de Saint-Pierre et chef de l'Orchestre en Harmonie, et avec Michel Ventula, président du festival Piano Pic.
Mélomanie. L'agenda.
Michel Ventula, président du festival Piano Pic, est donc au téléphone avec nous. Bonjour Michel, merci de vous être libéré pour Mélomanie alors que vous êtes en déplacement à Paris aujourd'hui. Alors, la 23e édition du festival a donc lieu du 15 au 26 juillet cette année. Nous allons nous plonger dans sa programmation avec vous dans quelques instants. Je rappelle que les concerts de Piano Pic se tiennent à Bagnères-de-Bigorre et dans ses environs. Donc, beaucoup de concerts ont lieu à Bagnères-de-Bigorre même. Souvent à la Lograin, mais pas seulement, on va en parler. Mais il y a aussi d'autres lieux de concert. Alors, quels sont ces autres lieux dans un rayon de quoi? De quelques kilomètres, en fait?
Quelques kilomètres, il y a bien sûr le Pic du Midi. Mais au-delà du Pic du Midi, nous avons l'abbaye de l'Escaladieu. Et ensuite, nous avons des églises, comme l'église de Gerte ou l'église de Campan, qui sont donc dans l'agglomération de Bagnères-de-Bigorre. Et dans Bagnères même, il y a la Lograin, mais aussi la chapelle du Carmel.
Et parmi les autres églises, est-ce qu'il y a Beaudéan? Peut-être pas cette année, mais je sais qu'il y a
des jeunes. Non, pas cette année non plus. D'accord. Non, il n'y a que deux églises, Gerde et Campan.
Si je comprends bien, il s'agit aussi de faire découvrir le riche patrimoine de cette région, religieux entre autres.
C'est un peu l'objet même du festival, de faire découvrir le riche patrimoine, comme vous dites, de la vallée du Haut-Adour, et en même temps, le patrimoine musical.
Alors, le concept du festival met donc en valeur, comme son nom l'indique, essentiellement les pianistes et le piano. Pour autant, ce n'est pas le seul instrument représenté. Quels autres instruments peut-on entendre durant le festival?
Alors, habituellement, il y a surtout les pianos et la musique de chambre. Mais cette année, il y a une innovation. Nous aurons pour la première fois de la guitare.
De la guitare.
Et on ne pouvait mieux choisir, parce que ça a été choisi bien avant la cérémonie. C'est Thibaut Garcia, que tout le monde connaît dans la région,
oui.
Et pour cause. Et donc Thibaut Garcia, qui a été nommé aux Victoires de la Musique, et lauréat donc des Victoires de la Musique 2019. Et ensuite, nous avons aussi, cette année, de l'orgue.
Et oui, j'ai vu ça, qu'il y avait un concert d'orgue, effectivement.
Donc, nous avions toujours un concert à l'église, dont l'acoustique n'est pas forcément adaptée à des concerts de musique de chambre. Et depuis longtemps, nous estimions qu'un concert d'orgue serait le bienvenu. Et le hasard a fait que Philippe Lefebvre a été invité pour ce concert. Là aussi, bien avant les tristes événements qui ont frappé Notre-Dame de Paris.
Alors, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de rappeler, hein, de préciser qui est Philippe Lefebvre. Donc, de la guitare, de l'orgue, et puis des duos, des trios avec piano, bien sûr.
Voilà. Et ensuite, on a aussi innové avec des concerts off. Et notamment un concert avec deux jeunes pianistes qui sont de la région. Un qui est de Tarbes, Isaac Scordino, et Constant Després, qui est toulousain.
Qu'on connaît bien à Toulouse.
Qu'on connaît bien à Toulouse.
On va y revenir aussi. Alors justement, ça m'amène à parler des musiciens que vous convoquez chaque année. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un mélange de grands solistes confirmés, qu'on connaît bien sur la scène nationale, voire internationale, et puis des jeunes pousses. Donc ça aussi, je pense que c'est une des lignes directrices du festival depuis ses débuts.
C'est une volonté d'inviter des solistes confirmés, mais aussi de faire découvrir de jeunes talents ou des talents moins connus chez nous, mais qui sont reconnus par ailleurs. À cet égard, je parlerai d'Etsuko Hirose, qui est une magnifique pianiste qui a été invitée plusieurs fois comme soliste et qui revient cette année en musique de chambre.
Il y a aussi un événement important durant le festival, et là aussi qui est ancien, c'est l'Académie internationale Gheorghi Sebok. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, l'Académie Gheorghi Sebok a été créée justement en 2005 à Varège par Gheorghi Sebok et Pierre Réac et Christophe Baillet, mais aussi Denis Pascal, qui était sur place un tout petit peu plus tard. Et donc, c'était l'idée du partage de la musique avec de jeunes instrumentistes et de partager dans un cadre adapté, on va dire, sans pression comme on peut trouver dans des institutions, dans les conservatoires. Donc c'était vraiment un lieu idéal pour se développer artistiquement, je dirais. Et donc l'idée de poursuivre, après le décès de Gheorghe Sebok, de poursuivre cette aventure a été pérennisée. Et même en changeant de lieu, l'idée est restée. Ça permet aussi d'avoir tous les stagiaires qui viennent au concert, ce qui est un partage non négligeable.
Alors j'ai vu, pour ouvrir le festival et la programmation cette année, vous présenter une tête d'affiche qu'on connaît bien aussi à Toulouse, puisque c'est Adam Laloum, Toulousain formé au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, qui est devenu un grand de la scène du piano international. Est-ce que c'est une première pour lui à Piano Pic ou est-ce qu'il est déjà venu ?
Il est venu comme stagiaire.
Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler.
Ouais, voilà. Et là-dessus, nous avons aussi un autre stagiaire, c'est Sean Cho, qui est un magnifique pianiste de Singapour et qui poursuit ses études actuellement à Vienne, mais qui a eu un prix Chopin parce qu'il y a eu un concours international à Bagnères-de-Bigorre, un seul, il y a quelques années, et ça a été le lauréat, Sean Cho.
Alors lui qui jouera le concert de clôture le 26 juillet avec l'orchestre de Pau au Pays de Béarn, on va y venir tout à l'heure. Juste, je reviens à Adam Laloum, donc concert d'ouverture le 15 juillet à l'abbaye de l'Escaladieu à 19h. Quel programme va-t-il jouer ?
Alors, je sais qu'il va jouer des sonates de Beethoven.
Il y a la 28, effectivement. Il y a la sonate.
Oui, mais Schumann et Schubert. Voilà un programme allemand, mais ça va être une belle ouverture.
Trois compositeurs qu'il apprécie tout particulièrement. Alors j'ai sous les yeux précisément les œuvres qu'il va jouer. Donc il y aura la sonate numéro 28 de Beethoven, l'humoresque opus 20 de Robert Schumann et la fantaisie D894 de Franz Schubert. On va maintenant écouter justement Adam Laloum jouer une des pièces au programme de son concert du 15 juillet à l'abbaye de l'Escaladieu, la fantaisie D894 de Schubert. La fantaisie D894 de Schubert, interprétée par Adam Laloum, qui va donc donner le concert d'ouverture de Piano Pic 2019. Ce sera le 15 juillet à 19h à l'abbaye de l'Escaladieu. Et hormis Adam Laloum, Michel Ventula, quelles seront les autres têtes d'affiche de cette 23e édition ?
Kefelec, qui se produira à la Halle aux Grains de Bagnères le 18 juillet. Et je tiens à préciser que c'est le jour de l'arrivée du Tour de France.
Ah oui.
Donc, il faudra prendre des dispositions, mais tout est prévu pour que le public puisse arriver à partir de 20h30. Donc, il n'y a pas de problème majeur là-dessus. Donc là aussi, elle aura un programme avec du Haydn, une sonate en mi majeur, une sonate en si mineur, Mozart, sonate en si bémol majeur, et Beethoven, l'alpha et l'oméga des sonates numéro 1, opus 2, en fa mineur et la sonate 32, opus 111 en ut mineur.
Alors Beethoven qui est très à l'honneur, j'ai vu lors de cette édition 2019, évidemment.
On s'approche, comme on dit, des dates anniversaires.
Absolument.
Donc, nous avons un pianiste hongrois, Balázs Csokonai, qui était déjà venu, je pense, à Varège. Donc là, c'est un programme Chopin.
Oui, soirée Chopin, le vendredi 19 juillet, au Casino de Cotteret.
Cotteret, voilà. Ensuite, nous serons le samedi 20 juillet à Campan pour des sonates de Beethoven, encore, avec Pierre Réac et la participation d'Olivier Bellamy.
Oui, qui fera donc le récitant à cette occasion.
Le récitant, voilà.
Qui va présenter, je suppose, les sonates. Ouais. Ce sont les sonates les plus célèbres de Beethoven.
C'est ça.
Bon, je peux les indiquer. Clair de lune, évidemment. Pastoral, oui. La tempête et la marche funèbre. Je crois que ce devrait être les quatre que va jouer Pierre Réac.
Voilà, si on poursuit, nous avons le 21, donc le concert d'orgue à l'église de Vanières avec Philippe Lefebvre. Et là, évidemment, du Bach, du Buxtehude, du Mendelssohn, du Séjean et du Philippe Lefebvre. Voilà, une improvisation sur le nom de Bach.
Rappelez peut-être qui est Philippe Lefebvre.
Alors, Philippe Lefebvre est un organiste réputé qui est un des organistes de Notre-Dame de Paris et il est aussi directeur de la maîtrise de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, il a été professeur d'improvisation au Conservatoire supérieur de Paris et c'est un des interprètes et improvisateurs les plus représentatifs de l'art français. Donc, c'est un éminent musicien et un éminent artiste que nous sommes très heureux d'accueillir.
Alors, donc, parmi les têtes d'affiche, il y a François-Frédéric Guy aussi. Hein.
Oui.
François-Frédéric Guy joue le lundi 22 juillet à la Lograin de Bagnères.
Oui, il joue le 22 juillet, et là aussi, c'est un magnifique interprète qui, si j'ai bien écouté les dernières informations, prépare une intégrale des 5 concertos de Beethoven début 2020 à Paris. Et pour l'instant, chez nous, il va jouer la bénédiction de Dieu dans la solitude de Franz Liszt et de Beethoven la sonate opus 31, la boiteuse, ainsi que la sonate D959 de Schubert. C'est un magnifique interprète aussi qui mène une carrière internationale bien connue.
Et puis, alors, il y aura évidemment le concert de clôture. Et alors là, ça va être un concert avec orchestre.
Avec orchestre. Souvent, nous avions un concert avec l'orchestre des stagiaires. Cette année, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu proposer cette solution. Et donc, nous avons décidé de demander à l'orchestre de Pau de venir. Et ce sera sous la direction de Faisal Karoui, que nous connaissons bien aussi à Toulouse. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure, il y aura Chancho comme soliste au piano. Nous aurons donc pour ce concert le concerto en sol de Maurice Ravel et la symphonie du Nouveau Monde.
De Dvorak, donc Dvorak. Très beau programme qui, je pense, devrait faire l'unanimité parmi les membres du public. Et puis donc, vous en parlez tout à l'heure, donc il y a Thibaut Garcia qui va se produire. Lui, ce sera au début du festival, puisque c'est le 17 juillet. Et ce sera justement un lieu que vous évoquiez tout à l'heure, la Chapelle du Carmel.
Voilà, à 17h30.
Avec un programme là, très varié, beaucoup de pièces, beaucoup de compositeurs.
Oui, ça va de Barion Mangoré, Alexandre Tanzmann, Bach, Domeniconi, Liové Soles et évidemment Albéniz avec Asturias.
Alors, je voulais revenir, vous en avez parlé tout à l'heure, sur ce concert avec celui qu'on connaît bien à Toulouse, le petit Constant Després, avec Isaac Scordino. Et ça, ce sera un concert qui sera en plein air.
C'est en plein air. Il y aura deux concerts off, si on peut dire en plein air, et donc gratuits. Les deux jeunes pianistes le 19 juillet et le 23 juillet, un off avec Pierre Réac et Franck Siup.
J'ai vu effectivement ce programme avec Pierre Réac et Franck Siup. Donc Pierre Réac est un des deux co-directeurs artistiques du festival. Oui. Et ils vont jouer donc à quatre mains. Mais alors c'est un programme qui va de Chopin à Cosma. Et le Cosma en question, évidemment, je suppose que c'est Vladimir Cosma, compositeur de musique de film.
Voilà. Oui. En fait, ils se connaissent bien. Et Franck Siup fait beaucoup d'arrangements là-dessus, sur des musiques de film. Donc, ils vont s'amuser et amuser le public en même temps et donner beaucoup de plaisir.
Alors, puisqu'on parle de Pierre Réac, je voudrais qu'on l'écoute dans cette émission et qu'on l'écoute dans une des pièces qu'il jouera lors de son programme avec Olivier Bellamy de sonate célèbre de Beethoven à l'église de Campan le 20 juillet. On va écouter une de ses sonates jouée par Pierre Réac, la sonate « La tempête ». Pierre Éhac qui interprétait la sonate La Tempête de Beethoven, donc une des œuvres qu'il jouera lors de son concert du 20 juillet à l'église de Campan, avec la participation d'Olivier Bellamy, les sonates célèbres de Beethoven. Voilà pour la programmation de l'édition Piano Pic 2019. Merci beaucoup Michel Ventula d'avoir été au rendez-vous pour la présenter et en parler avec nous, en rappelant que ce 23e festival a lieu du 15 au 26 juillet. D'ici là, il va y avoir d'autres événements et concerts dans notre région, pas plus tard que ce samedi 29 juin à Toulouse, où l'Orchestre National du Capitole va jouer son dernier concert de la saison à la Lograin, sous la direction du chef singapourien Kat Chun Wong. Et là, Serge Krichevski, un seul compositeur au programme, l'américain Moondog, dont nous commémorons en 2019 le 20e anniversaire de la mort. À titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de sa musique?
Alors, bon... Effectivement, je n'ai pas un mot à vous dire sur Moondog, ça tombe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de sa musique? Encore moins, je l'ai entendu et je dois dire que malheureusement, elle ne m'a pas laissé de grandes traces, mais je suppose qu'elle a une raison d'être jouée à Toulouse en 2019.
Donc, oui, parce que c'est l'année Moondog à Toulouse.
Hein. Voilà, il y a eu effectivement un fil conducteur où ce compositeur a été associé à beaucoup d'événements.
Alors vous ne jouerez pas donc ce concert du 29 juin puisque vous serez encore dans la fosse du Capitole jusqu'au 2 juillet. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de vous manquer de ne pas jouer les œuvres de Moondog.
Bon, mais je rate peut-être certainement une grande émotion musicale. J'ai essayé d'écouter. Hein. Je vous dois dire que ça ne m'a pas capté encore pour le moment.
Oui, alors Moondog, on l'a déjà dit dans cette émission, grand admirateur de Bach, mais aussi amateur de jazz, ami des jazzmen, et puis certains le considèrent un peu comme le père du minimalisme américain, pourquoi pas. Là, il va y avoir un programme de pièces symphoniques de Moondog. Oui. Alors j'en ai quelques-unes sous les yeux, je vais vous donner les titres. Donc il y a la symphonique numéro 1, Portrait of a Monarch, Portrait d'un monarque. La numéro 3, Ode to Venus, Ode à Vénus. La numéro 6, Good for Goody. Et puis, il y a d'autres pièces qui ont des titres. Alors, c'est souvent assez poétique.
Un peu ésotérique.
On va dire ça poétique, mais plutôt ésotérique, effectivement. Ouais. Il y a Sim's Stamping Ground, Mini Sim, Bird's Lament, Surf Session. Session de surf.
Oui.
Et puis, Witch of Endor.
Eric, passe un moment délicieux avec Anne-Marie, parce qu'on vous voit tous les deux.
Non. Alors, moi, j'ai quand même.
En fait, ça fait plaisir.
J'ai quand même une petite chose à dire, c'est que c'est un compositeur qui a apparemment été très charismatique, un personnage très charismatique, et qui a connu de grandes, très grandes personnalités de la musique américaine entre les années 1960 et, je ne sais pas, son décès, c'est 99.
On commémore les 20 ans de sa mort. Voilà. C'est pour
donc,
ça que c'est l'année Moondog.
Il a certainement. À la fois, il a échangé avec toutes ses personnalités et on doit ressentir un peu toutes ses influences et sa personnalité propre.
Voilà, donc comme je disais, je vois que mes camarades autour de la table dans ce studio sourient, ils doivent se demander quelle musique peut se cacher derrière ces titres en effet un peu ésotériques. Je vais donc vous proposer d'écouter une des pièces au programme de ce concert Moondog du 29 juin. Il s'agit de Witch of Endor, la sorcière d'Endor, en référence au personnage de la Bible.
Thank you.
Witch of Endor, la sorcière d'Endor, pièce de Moondog, est au programme du concert que l'Orchestre National du Capitole consacre entièrement au compositeur américain Moondog l'Inclassable. Ce sera le dernier concert de la saison de l'Orchestre Symphonique Toulousain à la Lograin ce samedi 29 juin à 20h dans le cadre de l'année Moondog à Toulouse. Et puis, autre événement que je voulais rappeler avant de terminer cette émission, le deuxième concert lecture de musique en dialogue aux Carmélites, dimanche 7 juillet à 16h à la chapelle des Carmélites de Toulouse, bien sûr. Il est sous-titré « Voix d'enfance, voix d'exil » et il va réunir la chanteuse et récitante Oriane Moretti, la violoncelliste Maïtan Sébastien et le guitariste Sébastien Linares. Ce programme est constitué d'airs et de mélodies du monde entier, traditionnelles ou savantes, qu'Oriane Moretti présentera entre les interprétations. Donc ce sera le deuxième concert après celui du 16 juin, récemment, qui était consacré au flamenco et au tango, qu'on avait beaucoup apprécié, Anne-Marie. Vous aimez ce genre de formule ?
Oui, la formule est intéressante, oui. La musique et les mots, même si c'est pas facile toujours à réussir, parce que les mots, ça dépend qui les dit, et la musique aussi, ça dépend des interprètes, mais je pense que la formule n'est pas mal, dans ce cadre surtout, la chapelle des Carmélites, qui est un lieu agréable pour la musique de chambre. Je crois que la série là est bien partie, et qu'elle est justifiée dans ce cadre.
Eh bien, nous allons écouter Sébastien Linares, cet excellent guitariste qui est originaire de Pibrac, hein, encore un musicien qui a commencé, fait ses études, sa formation dans la région. Et on va l'écouter dans une interprétation d'une pièce de Joaquín Turina, Ráfaga. Ráfaga de Joaquín Turina, joué par Sébastien Linares. Le guitariste donne le deuxième concert lecture de musique en dialogue aux Carmélites, Voix d'enfance, voix d'exil, avec Oriane Moretti et Maïtan Sébastien, dimanche 7 juillet à 16h, à la chapelle des Carmélites. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie. Merci encore à mes amis Anne-Marie Chouchan, Serge Krichewski et Robert Pénavert de m'avoir aidé à l'animer. Et merci à Michel Ventula d'avoir été au téléphone avec nous pour évoquer la programmation de Piano Pic, le festival qu'il préside et dont la 23e édition se tient à Bagnères-de-Bigorre et à ses alentours du 15 au 26 juillet prochain, avec de grands musiciens, de très beaux concerts dans des lieux magnifiques. Je vous invite à découvrir le détail de cette programmation en consultant le site du festival www.piano-pic.fr et réservez vos places de concert dès maintenant. À Toulouse, je rappelle que les représentations de Werther, l'opéra de Jules Massenet, se poursuivent au Théâtre du Capitole. Il en reste encore deux ce dimanche 30 juin à 15h et mardi 2 juillet à 20h. Renseignements et réservations sur le site www.theatreducapitole.fr. Le dernier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole a lieu, lui, à la Halle aux Grains, ce samedi 29 juin à 20h. Il est donc entièrement consacré à Moondog l'Inclassable, avec plusieurs pièces symphoniques du compositeur américain au programme. Pour vous informer et réserver vos places, il faut vous connecter au site de l'orchestre, www.onct.toulouse.fr. Et puis, concernant le deuxième concert lecture de musique en dialogue au Carmélite, dimanche 7 juillet à 16h, à la chapelle des Carmélites de Toulouse. Avec le programme Voix d'enfance, Voix d'exil, vous trouverez tous les détails nécessaires et la billetterie en ligne pour réserver et acheter vos places sur le site www.musiqueendialogue.org. Merci à Océane Soulier d'avoir piloté la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.